Mission Sicile, podcast by Tendance Ouest.
Bienvenue dans Mission Sicile, le podcast de Tendance Ouest qui vous raconte l'histoire des Normands partis chercher l'infortune et l'aventure dans l'île italienne. Épisode 2, les traces encore visibles aujourd'hui et on va se pencher plus particulièrement sur l'architecture politique, l'architecture civile. En fait, les grands palais qui ont été construits par les rois normands sur l'île, car il y en a plusieurs. Et on commence la visite avec le palais de la Ziza. Je pensais à chaque fois, il fallait que je la fasse. Donc le palais de la Ziza à Palerme, décrit par le directeur du musée de Normandie à Caen, Jean-Marie Lévesque.
Un mélange entre le palais oriental et le donjon normand. Une espèce de compromis entre ces deux architectures. Donc un aspect massif et défensif, mais en même temps un aspect très décoré, avec les inspirations très orientales, les arcatures plaquées, la muraille crénelée. Et il faudrait le voir dans un jardin, dans un immense jardin avec des jeux d'eau, des bassins. Aujourd'hui, c'est un secteur de la ville très urbanisé, mais auparavant, c'est un jardin, un palais de plaisance du roi de Sicile, à l'écart de la ville, avec un décor de jardin, de fontaines, de bassins, de jeux d'eau, espèce de Versailles du XIIe siècle. C'est vraiment extraordinaire.
On devait être pas mal.
Oui, c'est à l'extérieur comme à l'intérieur, il y a le paysage des jardins, et à l'intérieur, on a un système très sophistiqué de ventilation qui repose sur une fontaine qui est au centre de la construction et qui ventile les appartements et qui fait passer la fraîcheur dans cet espace. Donc c'est vraiment très très caractéristique d'une architecture mauresque, hein. On est vraiment dans une inspiration très orientale. On trouve ça aussi en Espagne, hein, ce type d'architecture. Et une idée les Siciliens appellent ça les solaria, les palais dans le soleil, les espaces comme ça, la notion de château de plaisance. Et alors dans une période, on a plutôt eu l'habitude d'identifier le château à la défense et à ses fonctions militaires. Là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment la résidence de plaisance. Même si on a des formes qui rappellent l'ostentation de la puissance royale, on est dans une architecture aussi de démonstration, d'affirmation de la puissance, mais aussi avec le confort, l'aisance, le plaisir de la vie.
On vient d'écouter Resonate in Tonet de l'ensemble Alcantara qui joue de la musique médiévale sicilienne du XIIIe siècle à la toute fin donc du royaume normand de Sicile. C'était dans son album Abalati Abalati, chant et musique de la Sicile médiévale. Là aussi donc pour un mélange d'influences. Et si on continue dans ce style particulier arabo-normand, il y a le Palais des Normands, c'est le siège de l'Assemblée sicilienne actuelle. Alors, imaginez un château massif, mais avec des décorations arabes ou byzantines, et puis aussi des symboles normands. Maria Luisa Montaperto est guide à Palerme et elle explique le mélange fait par les Normands, aussi appelé pour se hanter le syncrétisme.
Alors, c'est un mélange d'architecture et la décoration arabe avec l'architecture normande et avec les décorations à mosaïque byzantin. Mm. Elle crée un style totalement différent. Donc, des directement arabes, des directement byzantins, pratiquement, on n'a plus rien. Mais on a la culture byzantine, et aussi arabe, mais filtrée, modifiée, utilisée par les Normands. Mais les Normands utilisent les Arabes qui avaient ici, donc qui ont des artisans directs. Donc, c'est quelque chose d'incroyable.
Un mélange, bon, sans oublier quand même qui sont les conquérants, les Normands, et ça se voit dans les symboles utilisés pour décorer. Là, on est dans une chambre du palais.
La chambre comme ça, c'est les symboles de Normands. C'est toujours comme ça, c'est un lion qui a la patte comme ça, levée. Parce que c'est comme si les Normands disent que s'il y a l'occasion, ils sont prêts à partir, ils peuvent se défendre. Et en plus, comme disait aussi Giovanni, vous voyez que le visage, c'est anthropomorphe. Donc, c'est un lion, mais en vérité, le visage, c'est humain. Et donc, c'est la représentation, l'incarnation, on peut dire comme ça, du roi, oui, de la présence du roi ici. Et on n'a pas de scène à thématique religieuse, on n'a pas de scène sacrée, parce que c'est une chambre, vie du château, donc il y a cet animal partout, et au plafond, l'apothéose, on peut dire comme ça, de la puissance normande. Parce que vous avez des lions, oui, mais aussi les griffons qui montrent les ongles, et une aigle là qui a chassé, qui a pris un lapin. Et donc c'est toujours le normand qui domine, oui, qui gagne, oui, on peut dire comme ça.
C'était toujours l'ensemble Alcantara avec une chanson, Canto di Carnavale, de mon plus bel accent italien. Et donc, on reprend cette histoire des Normands en Sicile, est encore extrêmement importante aujourd'hui pour Maria Luisa Montaperto.
L'importance, c'est parce qu'avec les Normands, se fonde un royaume qui reste en paix jusqu'à l'unification d'Italie, donc change réellement l'histoire de la Sicile, qui passe d'un moment des conquêtes, des guerres, oui, qui duraient beaucoup de ans, à un moment où il y a des passages des couronnes. Pas pacifique parfois, mais à des passages des couronnes. Donc, un royaume évolue qui, encore aujourd'hui, a laissé des traces oui, importantes, oui, qui sont là. Parce que c'est jusqu'à 800 à l'unification d'Italie, pratiquement, que ceux qui avaient réalisé les grands comtes de Roger d'Hauteville, son fils Roger d'Hauteville, restent en pied. C'est encore vivante. Et pour nous, l'histoire du 1800 jusqu'en 1871, c'est vraiment très proche. C'est encore une grande hérédité. Oui.
Ce sont aussi des les Normands, ils sont arrivés sur un terreau fertile aussi, un petit peu. Il y a ça aussi qui a permis de... Parce que vous disiez qu'ils étaient pas
des
conquérants,
de...
mais, enfin, ils étaient conquérants, mais ils sont vraiment implantés, ils sont imprégnés.
Exactement. Et la chose la plus grande de cet roi, c'est qu'ils sont réellement ouverts et qu'ils utilisent de manière libre ce qu'on trouve. Par exemple, il y a des représentations où c'est le Christ qui directement met la couronne sur la tête du roi Roger de Hauteville ou du roi Guillaume de Lebon. Mais la couronne que met le Christ, c'est une couronne que normalement les Byzantins utilisaient pour les reines, pas pour les rois, parce que ce sont des couronnes ouvertes. Mais pour les rois, n'a pas d'importance, parce qu'ils utilisent des choses, mais à manière différente. Ils ne suivent pas à manière identique qu'est-ce qu'on avait fait les Byzantins ou les Arabes, mais ils prennent des choses, ils créent des choses, quelque chose qui est totalement nouveau, nouvelle, une chose nouvelle de tout. Comme ça.
Et le but, c'était vraiment de parler à tout le monde, que ce soit les Arabes, les Juifs, les Byzantins. Et ça se voyait même dans l'architecture.
Dans l'architecture, c'est encore vivante dans l'histoire de l'art, parce que nous avons vu un syncrétisme incroyable, un plafond réalisé par les Arabes, les mosaïques réalisées par des artistes byzantins pour les Normands, et un style normand qui c'est le style de forteresse. Parce qu'à la fin, c'est notre église, par exemple en Sicile, la cathédrale de Palerme, c'est une forteresse.
À aller voir aussi, là c'est le petit conseil touristique, le palais de la Cuba qui avait les mêmes fonctions que celui de la Ziza, mais lui est en ruine. On a aussi le palais du Schibene, toujours à Palerme, ou encore dans la capitale sicilienne, le parc de la Favara, ou encore le pont de l'Ammiraglio. Certains de ces bâtiments font partie d'un itinéraire balisé par l'Union Européenne, un itinéraire touristique qui s'appelle la route arabo-normande. Et dans cet itinéraire, on retrouve aussi dedans des églises, mais ça, c'est pour le prochain épisode.
Podcast by Tendance Ouest.
Merci d'écouter Mission Sicile, le podcast de Tendance Ouest qui vous raconte l'histoire des Normands partis chercher la gloire et l'aventure en Italie du Sud. À très bientôt.